France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, les paravents, quand une pièce de théâtre fait scandale. En avril 66, la pièce de Jean Genet, intitulée « Les paravents » donc, est créée au théâtre de l'Odéon. Sans que ce soit le sujet principal, tout se passe sur fond de guerre d'Algérie. Ouvriers arabes, fellahs, prostituées, colons et soldats évoluent dans un univers où les frontières entre le bien et le mal ont disparu, où il n'y a plus de héros ni de victimes. Alerté par une critique virulente du Figaro, l'extrême droite se met en ordre de bataille. L'armée maltraitée sur une scène de théâtre, humiliée même, ça ne passe pas. Les représentations sont alors perturbées. Des manifestations occupent le parvis de l'Odéon, des contre-manifestants défendent la pièce et son auteur, un député demande que l'État retire sa subvention au théâtre, la polémique enfle, obligeant Malraux, ministre de la Culture, à intervenir. Un scandale comme on n'en avait pas connu depuis la bataille d'Hernani autour de la pièce de Victor Hugo, c'était en 1830. Notre invité aujourd'hui, Albert Dichy, directeur littéraire de l'IMEC, l'Institut des mémoires de l'édition contemporaine et spécialiste de l'œuvre de Jean Genet. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Odile Conseil, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Remettez-vous, madame, il est bien loin. Il a fait un saut, sinon je suis morte.
Ah, madame, vous jouez fort bien la comédie.
Et moi, monseigneur ?
Quoi, madame, vous plaisantez ? Quel affreux badinage !
En 1966, l'Odéon à Paris ne s'appelle pas encore Théâtre de l'Europe, mais Théâtre de France. Son directeur, Jean-Louis Barrault, décide de monter les paravents, une pièce que Jean Genet a écrite pendant la guerre d'Algérie, une pièce publiée en 1961. Elle n'a encore jamais été jouée en France, tant elle fait peur à tous les directeurs de salle. Et d'ailleurs, l'auteur lui-même ne le souhaite pas. Les Français y verraient ce qui ne s'y trouve pas, mais qu'ils croiraient y trouver le problème de la guerre d'Algérie, dit-il dans une interview au magazine Playboy. Ajoutons que le personnage de Genet est clivant, comme on dirait aujourd'hui. Il n'a pas le parcours sans accroc d'un écrivain germano-pratin. Sa vie est chaotique et son passé tourmenté. Né de père inconnu, abandonné par sa mère à quelques mois, il entame une carrière de voleur dès l'âge de 10 ans, enchaîne fugue sur fugue et découvre le sexe dans une colonie pénitentiaire. Engagé dans l'armée à 18 ans, il déserte quelques années plus tard, vivant de petits larcins, et se retrouve un temps en prison. Et il commence à écrire. En dépit de son parcours et de ses fréquentations, son style n'en appelle jamais à l'argot. Non, dans une interview réalisée en 82, il explique à Bertrand Poirot-Delpech, du Monde, pourquoi il a choisi d'écrire en bon français. C'est-à-dire pour lui, la langue de l'ennemi, celle de la classe dominante, et il précise l'origine de son goût pour la belle langue.
Si j'ai été séduit par la langue, c'est pas à l'école. C'est vers l'âge de 15 ans, à la colonie pénitentiaire, quand on m'a donné, probablement par hasard, les sonnets de Ronsard. J'ai été ébloui. Il fallait être entendu de Ronsard. Ronsard n'aurait pas supporté l'argot. Ce que j'avais à dire était tel, témoignait de tellement de souffrance, que je devais utiliser cette langue-là.
Mais malgré Ronsard, Genet n'emploie pas un langage fleuri. Dans sa prose, on pisse, on pète, on éructe, la pourriture s'étale au grand jour, la puanteur règne, même si la poésie n'est jamais très loin. Mais revenons auparavant. À la tête de l'Odéon Théâtre de France, Jean-Louis Barrault souhaite que cette pièce y soit jouée. Sans doute trop optimiste, il pense que suffisamment d'eau a coulé sous les ponts pour qu'elle soit reçue sereinement par le public français. Après tout, la guerre d'Algérie est terminée depuis 4 ans. Toujours est-il que l'auteur se laisse convaincre. Il veut que ce soit Roger Blin qui en ait la charge. Celui-ci a déjà mis en scène « Les Nègres et le Balcon », deux pièces de Genet. Blin est l'un des signataires du manifeste des 121, revendiquant le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, ce qui ne fera rien pour apaiser certaines fureurs. Genet participe de très près à la mise en scène. Le texte imprimé comprend d'ailleurs beaucoup de didascalies. Il fait preuve également d'une réelle exigence avec les acteurs. ce qui n'est jamais simple quand un auteur est présent en répétition. Il marche immanquablement sur les plates-bandes du metteur en scène et des acteurs, mais c'est comme ça avec Genet. On l'entend ici s'adresser aux comédiens lors d'une répétition le 13 avril 66.
Dans votre façon de jouer, il y a des choses très poétiques qui sont préparées par vous pour la scène. C'est votre visage, votre voix, votre langage. Mais il y a deux choses très prosaïques qui se manifestent quand vous jouez. Alors, presque tous, c'est vos mains et vos pieds. Vous jouez généralement avec vos pieds comme des pieds. Vous ne savez pas vous en servir pour une démarche de scène, ni pour des mouvements de mains de scène. Et qu'il faudrait tout de même travailler vos gestes et votre démarche, qui ne peuvent pas être la démarche habituelle. Sinon, vous allez quelque part. Si vous marchez comme vous marchez habituellement, vous allez quelque part. Or, vous n'allez nulle part.
Genet a de fait un rapport assez particulier avec les comédiens. Dans une lettre à Roger Blin, il confesse que ceci demeure à ses yeux aussi étrange que les poissons. Tous ceux qui fréquentent des comédiens aujourd'hui ne diront pas le contraire. Dans un autre courrier adressé à l'éditeur Jean-Jacques Pauvert, il affirme que des marionnettes feraient mieux l'affaire. Bon, disons que Genet n'est pas un homme ni un auteur d'une grande souplesse. Un personnage complexe, un écrivain salué, protégé par Sartre ou Cocteau, qui voit en lui un moraliste, mais qualifié par ailleurs et par Mauriac d'auteur excrémentiel. Et c'est vrai que la merde, comme dirait Genet, est présente dans les paravents, comme le montre cet extrait. Là, c'est le sergent, ou plutôt le fantôme du sergent qui parle. Nous sommes dans le 15e tableau de la pièce.
Mais moi, figurez-vous que je suis mort en chien ? Accroupi dans les feuillets et bien au-dessus du trou, j'avais d'abord regardé s'il n'y avait pas de vipère. On ne sait jamais. Eh ben non, il y en avait. Mon froc bien descendu des deux mains, je m'accroupis au-dessus du trou. Et c'est au moment que je poussais et que mon regard vacillait. Quand on pousse, le regard vacille. Quelque chose se voile. Et qu'est-ce qui se voile et fout le camp ? Le monde ? Le ciel ? Non. Votre grade de sergent et celui de capitaine, avec tout, l'uniforme, les galons, les décorations et le brevet d'état-major, quand on est breveté. Et qu'est-ce qui reste ? Le vide. Ah, je vous le dis. J'ai vu des officiers en train de chier, officiers supérieurs, officiers généraux, leur œil vidé. Non, pas vide, vidé. Et accent aigu, et vidé. Les étoiles des képis, plus d'étoiles quand l'œil est vidé.
Bien, mais comment résumer les paravents ? L'affaire n'est pas simple, tant ce long texte est foisonnant, tant les personnages y sont nombreux, 110 pour 60 acteurs. Cette pièce où le rire et la mort ont intimement partie liée se déroule, selon les indications de l'auteur, dans des lieux différents, marqués par des paravents, d'où le titre, qui vont et qui viennent. Un bordel, la prison, une orangerie, l'étage des vivants, celui des morts, qui finira par envahir toute la scène à la fin. Alors, est-ce un manifeste contre la colonisation ? Non. Une apologie du monde arabe ? Une dénonciation de la guerre d'Algérie ? Non. Bien que l'action se situe dans un pays colonisé où des Arabes entament une rébellion et où l'armée tente de rétablir l'ordre. À s'y méprendre. Sauf qu'ici, pas de héros, pas de bons ni de méchants. Soldats, colons, félagas, prostituées, personne n'est érigé en modèle. Tous ou presque se retrouvent in fine au royaume des morts, espace de réconciliation ou d'indistinction, chacun y verra ce qu'il voudra y voir. Car Genet ne délivre ni leçon ni morale. Les lignes de force de la pièce tournent autour de quelques grandes notions, l'identité, la mort, la sexualité, la trahison. Mais elle est aussi bien plus que cela, estime l'universitaire Michel Corvin, spécialiste du théâtre du XXe siècle, invité de France Culture en 2011.
On avait quelqu'un qui était capable d'inventer une grande histoire. Une grande histoire, je ne parle pas de l'histoire politique, mais une grande histoire, un grand récit. Avec des événements, des tas de choses qui arrivent, et puis des personnages qui existent vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait une générosité dans l'écriture de la pièce de Genet, tout en fait en dehors même du point de vue politique, qui était tout à fait exceptionnel. Et je crois d'ailleurs que c'était tellement exceptionnel que c'est la dernière pièce de cette nature.
le même Michel Corvin, relève quatre fils narratifs dans cette pièce. D'abord celui de Saïd et de sa mère. Alors celui-là est tellement pauvre qu'il n'a pu acheter pour en faire sa femme que la fille la plus laide de la contrée, Leïla, dont la figure est dissimulée sous une cagoule. Saïd est voleur, il dérobe son argent à un ouvrier qui travaille comme lui à l'orangerie du colon. Et c'est un traître. Il dénonce les félagas à l'armée, mais il ne cherche ni approbation ni pitié. La mère, Leïla et Saïd constituent la famille des orties. Comme ces plantes qui poussent hors des jardins, ils sont des marginaux, voire des parias. La mère est jouée par Maria Cazares, impériale dans ce rôle terrible que décrit ainsi la critique des temps modernes. Faire que le malheur soit plus grand, la pauvreté plus totale, l'abjection plus parfaite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de recours que dans les rires. Deuxième fil narratif, les prostituées. La patronne du bordel, Warda, est jouée par Madeleine Renaud, surmontée d'un chignon vertigineux, piquée d'épingles à chapeau qu'elle utilise pour se curer les dents. Troisième fil, l'armée française venue mater la révolte, avec général, lieutenant, sergent et légionnaire. Voici un extrait d'une tirade du lieutenant, joué par Gabriel Catan. Nous sommes dans le 11e tableau.
À bloc, gonflé à bloc, gonflé et dur, bordel. Vos lits d'amour, c'est le champ de bataille, à la guerre comme à l'amour, pour les combats parés, de toutes vos parures, messieurs. Je veux qu'on renvoie à votre famille des bracelets-montres et des médailles tachées de sang caillé, et même de foutre. Je veux vos visières de képi plus luisantes que mes bottes, plus vernies que mes ongles, vos boutons, boucles, agrafes, crochets, comme mes éperons, chromés. La guerre, l'amour, je veux cousues dans vos doublures des images de gonzesses à poil et des immaculées de Lourdes, autour de vos cous des chaînettes d'or ou de plaqué or, sur vos cheveux de la brillantine, des rubans dans vos poils du cul, pour ceux qui en ont. Mais nom de Dieu, un soldat doit être poilu.
Quatrième et dernier fil narratif, les colons, qui ont le sentiment d'avoir fait ce pays, mais qui ne voient pas qu'il est en train de se défaire sous leurs yeux. L'un se préoccupe de sa roseraie, la plus belle du pays. L'autre possède une plantation de chêne-liège et un rejeton dont il dit « Pour sauver le patrimoine de mon fils, je sacrifierai mon fils. » Ayant dit cela, on n'a pas tout dit de cette pièce qualifiée ici de rabésienne, là de shakespearienne, une cathédrale littéraire pour l'un, un chant d'amour à la langue française pour l'autre. Il semble qu'il n'y ait pas de mots assez grands pour qualifier ce texte qui s'attaque à tous les piliers de l'ordre bourgeois et de la morale. Alors maintenant, tous en scène.
Strung out on lasers and slashed back blazers and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Get back on. Gene Genie lives on his back. Like a reptile, she love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Thank you.
écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le scandale des paravents de Jean Genet en 1966.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
Voilà, le rideau va bientôt se lever. Le soir de la première, Jean-Louis Barrault prend les devants vis-à-vis de possibles réactions. Invité de la radio publique, il avertit.
Non, par exemple.
Oh, par exemple.
Eh bien. Ce soir, les coulisses du Théâtre de France sont en pleine effervescence car nous créons une pièce de Jean Genet intitulée « Les paravents ». Il y a une soixantaine de comédiens, plus de 110 personnages, 17 tableaux. C'est une énorme machine théâtrale que nous avons désiré présenter au public dans l'activité même du Théâtre de France. Nous montons avec la plus grande sincérité, le plus grand enthousiasme, cette œuvre qui est une œuvre d'une qualité théâtrale et poétique exceptionnelle. Très belle, mais très crue. Très agressive. Il se peut que cette pièce soit cause de scandale et passe pour une provocation.
Le scandale est clairement annoncé. Prévu, peut-être. Espéré, pas forcément. De toute façon, il n'a pas lieu. Enfin, pas tout de suite. Les premières représentations, en effet, se passent bien. Très bien même. Devant un public conquis. Au point que le journal d'Interactualité se fait l'écho presque dépité d'un non-événement. Nous sommes le 17 avril 1966.
Une grande première théâtrale hier à l'Odéon Théâtre de France avec la présentation des paravents de Jean Genet. On craignait le scandale, mais il n'a pas eu lieu.
Oui, en effet, on s'attendait hier à une nouvelle bataille d'Hernani, une sorte de révolution mondaine en robe du soir et en habit. Les paravents de Jean Genet auraient tenu en l'occurrence le rôle de provocateur. Il y avait même sur place, face au théâtre, un quart de police prêt à intervenir. Mais le public a été très sage.
En revanche, dans la presse, ces titres ne ménagent pas leurs critiques contre la pièce. Plus curieusement, le Canard enchaîné, sous la plume d'Yvan Audouard, se déchaîne, utilisant le langage eschatologique qu'il dénonce, comme ces lignes, par exemple. « Je me suis gravement fait chier, comme dirait l'auteur, à la pièce du poétoman Jean Genet. Une grosse tête, on lui aurait fait à cet enculé, comme dirait l'auteur. » Autre ton, la longue critique qu'un Bertrand Poirot Delpech, enflammé, consacre à la pièce dans Le Monde, œuvre qu'il qualifie de « chef-d'œuvre ». Il l'évoque avec des mots qui disent la puissance de la bourrasque qui souffle dans la salle de l'Odéon.
Le poème s'achève sur un ton de réconciliation, sereine dans la défaite, sur un hymne au néant presque joyeux. Mais avant d'en arriver là, scène et réplique rivalisent d'horreur. On a écouté les prostituées vanter vertement leurs travaux. On a entendu l'amour parler le langage de la haine et du mépris. On a vu les plus déshérités s'abandonnant avec jubilation à la rage de tuer. On a surpris des officiers parlant de la guerre comme de la plus haute volupté, rêvant tout haut à la virilité de leurs soldats et salués à leur mort par un concert de pétomanes. Les cris obscènes se sont mêlés aux gestes réputés les plus nobles et aux mots les plus respectés.
Le concert de Pétoman, auquel Poirot Delpech fait allusion, va déclencher un concert d'injures et de protestations. Cette scène, qui se situe vers la fin de la pièce, fait suite à la mort du lieutenant, auquel les légionnaires souhaitent rendre hommage. Pour cela, ils lui font une dernière fois respirer l'air du Lot-et-Garonne, autrement dit enfermé dans leurs intestins, en lâchant sur lui un chapelet de paix, tout cela à l'ombre d'un drapeau tricolore planté dans le décor. Cette scène irrite au plus haut point Jean-Jacques Gauthier, redouté et redoutable critique au Figaro, qui ne mâche pas ses mots.
Je voudrais savoir s'il est beaucoup de pays où, dans un théâtre officiel, subventionné et par conséquent avec le consentement des plus hautes autorités de l'État, on montrerait le drapeau national, couvrant les propos et les gestes abjects de ses propres soldats présentés sous le jour le plus odieux. La prédilection que Genet manifeste pour ce qui est le plus laid, le plus sale, le plus grossier, la complaisance qu'il met à multiplier les incongruités injurieuses, le bonheur qu'il éprouve à brasser l'indécence, à se vautrer dans la scatologie, à étreindre l'obscénité et à cracher dans la figure du public, tout cela reflète le désir, la volonté, l'ambition de tout salir, de tout avilir et de tout dégrader.
Quoi ? Le drapeau insulté ? L'armée attaquée ? Qui plus est par un ex-déserteur, un repris de justice, un homosexuel notoire ? Pour les anciens de l'OAS, comme Roger Olyndre, qui n'ont pas digéré la perte de l'Algérie, et pour les jeunes d'extrême droite du mouvement Occident, toujours prêts à en découdre, avec au premier rang Alain Madelin, Gérard Longuet et Patrick de Vegelan, pour toute cette engeance, c'en est trop. Ils n'ont pas lu la pièce, bien sûr. Ils n'ont jusqu'alors jamais entendu parler de Jean Genet. Toute intention lyrique, poétique, philosophique, toute la réflexion sur le mal, la mort, la trahison, tout ce qui irrigue la pièce, leur est parfaitement étranger. Et d'ailleurs, ils s'en fichent. L'occasion est trop belle d'aller continuer la guerre par d'autres moyens. Alors la réaction s'organise. Roger Olyndre mobilise la presse d'extrême droite, qui s'enflamme sans se faire prier. Avec les membres d'Occident répartis dans la salle, les voilà prêts à intervenir au moment de la scène dite scandaleuse. La première salve est tirée le 29 avril. Ils sont là, piaffant sur leur siège, excités à l'idée de la bagarre qu'ils vont déclencher. Mais avant cela, obligés de subir du jeûner pendant 3 heures interminables, puisque la scène en question, pas de chance, se situe vers la fin. Roger Olyndre se remémore ce moment dans La Fabrique de l'Histoire en 2011.
Alors on avait monté tout ça comme une véritable expédition commando. Il y avait des gens dans la salle avec des filles avec des sacs de farine, d'autres filles avec des rats. On avait mis quelques costauds au premier étage du théâtre et les autres étaient dans la salle. On ne devait intervenir sur mon signal qu'au moment où le soldat pétait au nez de son officier en disant « Tiens, avant de crever, respire un peu encore l'air de France ». Ce qu'on ne savait pas, c'est que cette réplique était très très loin dans la pièce. Et on attendait. Enfin, finalement, comme on était là pour intervenir, on a attendu que cette tirade soit prononcée. Et à ce moment-là, on est monté sur la scène, ceux qui étaient devant. Et ceux qui étaient au premier étage ont sauté sur la scène. Et il y a eu une bagarre générale.
La bagarre est générale, en effet. Des spectateurs prennent les perturbateurs à partie. Sur scène, les échauffourées blessent, sans gravité, mais blessent quand même un acteur et un chef tapissier venu en renfort. Jean-Louis Barrault, qui joue également dans la pièce, fait baisser le rideau de fer, intervient sur l'avant-scène et déclare « Au nom de la liberté humaine, je vous demande le calme. Si ce spectacle est insupportable à certains, je leur demande de s'en aller. Le spectacle continue. » Et de fait, une fois les perturbateurs exfiltrés par la police, qui a tardé à intervenir, remarquent certains, une fois le rideau relevé, Maria Cazares enchaîne sur sa réplique qui dit « Et maintenant, causons !» Le scandale ne fait pourtant que commencer. Désormais, chaque soir, le spectacle est perturbé. Des élèves de Saint-Cyr et des parachutistes s'en mêlent, des chaises volent, des pétards explosent, des insultes fusent. Devant le théâtre, des manifestants huent le nom de Genet, proclament leur amour de l'armée, massés sous une banderole affichant « Gloire à l'armée, mouvement Occident ». Ils s'indignent de l'attaque dont ils se sentent les victimes. L'un d'eux témoigne au micro d'Interactualité.
Ils sont pour le moment plusieurs centaines de manifestants sur la place de l'Odéon, tous des anciens militaires, des anciens combattants de la guerre d'Algérie et aussi de la guerre d'Indochine. Ils sont venus avec des drapeaux et une banderole sur laquelle est inscrite « Gloire à l'armée, mouvement d'Occident ». De l'autre côté, c'est-à-dire sous les colonnes du théâtre de l'Odéon, entourant Jean Genet, un fort groupe de contre-manifestants, de jeunes, qui, de leur côté, scandent des slogans.
Nous avons organisé cette manifestation parce que nous estimons intolérable que, dans ce pays, ce soit continuellement l'armée qui soit bafouée. Toutes les pièces de théâtre, tous les films qui sont faits sur la guerre d'Algérie traite l'armée d'une façon bizarre, c'est-à-dire d'une façon telle que la voyaient Courteline et les autres anciens combattants d'Algérie. Nous sommes certains et nous sommes fiers d'avoir fait partie d'une armée qui n'était pas l'armée de Courteline.
Le comité de liaison des anciens combattants de la France libre, d'Indochine et d'Algérie publie un communiqué dénonçant, je cite, « une pièce dont le seul but est de déverser sur l'armée française un tombereau d'immondices. Que cette pièce ait été écrite par un individu pédéraste notoire, voleur, déserteur, ancien prostitué de tous les bas-fonds d'Europe, constitue un scandale sans précédent. » Ambiance. Le quotidien d'extrême droite, Minute, n'est pas en reste. Dans un article du 5 mai, non signé, il fustige l'ignoble pièce du scatologue Jean Genet et s'en prend au directeur du théâtre, qui a suscité délibérément le scandale et la fureur. S'il y a eu des désordres et des violences, les fautifs ne sont ni les étudiants, ni les anciens d'Algérie et d'Indochine. Le responsable de ce gâchis, c'est Jean-Louis Barrault. Car il y a eu attentat prémédité à la décence et à l'honneur, conclut Minute. Face aux perturbations qui se poursuivent dans la salle et en dehors, le théâtre n'est pas totalement pris au dépourvu. Non. Pressentant de possibles ennuis, Jean-Louis Barrault s'était rendu peu avant à la faculté de Nanterre et avait sollicité l'aide des étudiants. Ainsi, pendant 15 jours, des jeunes gens prêts à jouer des points, gauchistes contre fascistes, pour aller vite, sont là pour défendre le plateau, les acteurs et Jean Genet. Parmi eux, Daniel Cohn-Bendit et Henri Weber, ce dernier deviendra plus tard sénateur puis député européen socialiste. Tous deux se souviennent dans la fabrique de l'histoire sur France Culture en 2011, Cohn-Bendit d'abord, Weber ensuite.
Nous, on était un groupe de libertaires, antimilitariste et donc anti-extrême droite et donc pour Jean Genet, qu'on lisait, dont on parlait, qui avait cette vie libertaire, cette vie libre qui nous fascinait et puis qui était un provocateur de l'ordre établi. Et en tant que provocateur de l'ordre établi, il correspondait tout à fait à notre état d'esprit de l'époque.
Et moi, j'étais à la tête d'un groupuscule qui s'appelait la Jeunesse communiste révolutionnaire. Nous avons été contactés par les responsables du spectacle de la pièce de Genet. Ils ont demandé de protéger le spectacle, ce à quoi nous avons consenti avec plaisir. Il y avait là aussi le service d'ordre de l'UNEF, enfin un certain nombre de services d'ordre estudiantins. Et bon, se retrouver là le soir pour préserver ce théâtre et ce spectacle, c'était assez gratifiant.
Vous l'entendez, la dernière représentation en ce printemps 66 se termine par une ovation du public et 17 rappels. La pièce est reprise à l'automne, au même endroit, et toujours à guichet fermé. Mais les vacances n'ont pas calmé les perturbateurs qui expédient sur scène des rats, vivants ou morts. Madeleine Renaud, qui joue la tenancière du bordel, reçoit un étron. Maria Cazares trouve dans sa boîte aux lettres un cercueil. Et cette fois, la politique s'en mêle. Le député de la majorité Christian Bonnet dépose une requête pour que la subvention du Théâtre de France soit amputée de la somme qui a permis de monter les paravents. C'est même sujet de débat à l'Assemblée. À l'occasion du vote du budget de la culture, André Malraux, ministre de tutelle, qui par ailleurs n'aimait pas les paravents, assène cette réponse qui n'a pas pris une ride. Extrait.
Voyez-vous, messieurs, la liberté n'a pas toujours les mains propres. Mais quand elle n'a pas les mains propres, avant de la passer par la fenêtre, il faut y regarder deux fois. L'argument « ceci blesse ma sensibilité, donc on doit l'interdire » est un argument déraisonnable, car l'argument raisonnable c'est « monsieur, si votre sensibilité est blessée par cette pièce, n'allez pas acheter vos places au contrôle, on joue d'autres choses ailleurs, il n'y a pas d'obligation, nous ne sommes pas à la radio. » En fait, nous n'autorisons pas les paravents pour ce que vous leur reprochez et qui peut être légitime, nous autorisons les paravents malgré ce que vous leur reprochez, comme, en définitive, nous admirons Baudelaire pour la fin d'une charogne et pas pour la description du mort.
Auparavant, Georges Becker, rapporteur de la Commission des affaires culturelles, déclare que cette pièce lui fait horreur, mais, et là c'est lui qui parle, prendre au tragique cette représentation me paraît superflu car, si comme je le crois, la pièce ne vaut rien, elle sera très vite oubliée. Vite oubliée, cette pièce ? Erreur. Les paravents ne sont pas une pièce oubliable. Mieux, elle représente l'une des plus importantes du XXe siècle. Genet a fait un travail de véritable poète. Il a transfiguré un sujet qui partait de l'histoire et il en a fait un poème, soutient Jean-Louis Barrault au micro de Jacques Chancel en 1983. La même année, prenant la direction du théâtre des Amandiers à Nanterre, Patrice Chéreau monte les paravents. Pour lui, cette pièce appartient à notre histoire, c'est une grande œuvre nationale. Et en juin 2024, 58 ans après, dans l'un de ces clins d'œil dont l'histoire a le secret, les paravents reviennent à l'affiche à l'Odéon, devenu théâtre de l'Europe, dans une mise en scène d'Arthur Nosiciel, qui rappelle ici à quel point le côté formel de la pièce était à l'époque extrêmement novateur.
Je pense qu'il y a aussi une dimension qui peut avoir fait date, qui est quand même la question formelle. Il propose un théâtre qui essaye d'être totalement en dehors du théâtre de son temps, de quelque chose d'absolument inédit, qui est une expérience qui n'est pas le théâtre tel qu'on l'envisage à l'époque, mais qui devient une expérience spirituelle, métaphysique, poétique, physique, qui met le spectateur à rude épreuve par rapport à tout ce qu'il croit attendre et savoir du théâtre à ce moment-là. Comment il déjoue constamment la dramaturgie en créant de l'improbable et de l'incohérence. Comment il raconte une histoire irracontable, comment il perd des personnages en route, comment il manie tout le temps le paradoxe. Fait qu'on est en face de quelque chose qui échappe à tout ce qu'on connaît. Comme la bataille d'Hernani, finalement, l'a réduite aussi à la bataille politique, alors que la vraie révolution, elle était peut-être dans l'invention formelle d'Hugo à ce moment-là.
Et cette fois, le Figaro applaudit. Genet, lui, s'est éclipsé en 1986 à 75 ans, dont 14 années passées en prison. C'est là qu'il écrit plusieurs de ses livres. Lors de ses dernières années, il prend fait et cause pour les Black Panthers, pour les Palestiniens. Il est le premier à entrer dans le camp de réfugiés de Shatila en 82, là où les miliciens chrétiens massacrent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de Palestiniens, sous le regard de l'armée israélienne qui ne bouge pas le petit doigt. Genet prend fait et cause pour les Palestiniens, mais il n'a jamais caché qu'ils ne seraient plus à leur côté s'ils accédaient au pouvoir d'une façon ou d'une autre, puisque pour lui, le pouvoir, c'est la mort, au Proche-Orient, comme en Algérie ou ailleurs. Et c'est peut-être là, bien plus que dans les échauffourées avec l'extrême droite, que réside le vrai scandale des paravents. Comme l'écrit Fabienne Darche dans Le Monde, en 2006, la façon dont Genet montre que le mouvement révolutionnaire algérien ne fait que se construire en miroir du pouvoir colonial français est dérangeante. Elle est même violente pour la gauche. Jean Genet n'est pas un personnage aimable. Ses écrits ne sentent pas l'eau de rose, mais ils sont là, défiant le temps, et font de leur auteur l'un des grands écrivains du XXe siècle. Un qualificatif qu'il aurait évidemment détesté. Alors, quelle meilleure façon de parler de lui qu'avec les rudes propos tenus par Bertrand Poirot Delpech dans la nécrologie du poète qu'il signe dans Le Monde du 16 avril 1986.
Voleur, déserteur, traître, taulard, tante, ennemi de tout, sauf de la violence. C'est un champion de l'opprobre qui disparaît. Une bête enragée, le mal en personne. Pour mieux faire oublier le malfaiteur qui les accuse et le mal-pensant qui les menace, les honnêtes gens vont s'empresser de célébrer le poète, comme ils l'ont fait avec Villon, Sade, Rimbaud. Et ils auront beau jeu d'exalter son respect des lois, grammaticales, servi pieusement, superbement. Mais la décence, pour parler le vocabulaire qu'il vomissait, commande d'attendre un peu. L'homme que l'ordre a maudit, et qui le maudissait, a payé cher le droit à une haine tenace.
Aujourd'hui, les paravents de Jean Genet. Bonjour Albert Dichy.
Bonjour.
Vous êtes le conseiller littéraire de l'IMEC, Institut des mémoires de l'édition contemporaine, dont l'objet est de préserver et mettre en valeur les fonds d'archives et d'études des principales maisons d'édition et revues. Alors vous êtes aussi, et surtout, un spécialiste de l'œuvre de Jean Genet, dont vous avez coédité les œuvres complètes dans la Pléiade. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer, déjà ?
J'ai eu effectivement l'occasion et la chance de le croiser, brièvement, quand j'avais 20 ans, au Liban, bien avant que je commence à m'intéresser à son œuvre. J'avais suivi un ami qui se rendait à une réunion politique d'information sur les Palestiniens. Et ce qui m'avait frappé chez lui, d'abord, contrairement à l'image qu'on en a parfois, c'est curieusement sa douceur. Il était beaucoup plus calme, plus réfléchi que la plupart des militants qui l'entouraient. Mais je sais qu'il pouvait être aussi abrupt. C'était un homme qui avait fait un pas de côté par rapport au monde social, aussi bien en tant que voleur qu'en tant qu'écrivain.
Alors c'est effectivement un personnage difficile, clivant, une affaire sensible à lui tout seul. Quel adjectif ou quels adjectifs lui conviendraient le mieux?
Je dirais plutôt qu'il était comme un être blessé et qu'il pouvait, selon les circonstances, réagir avec violence, avec ruse et avec humour.
Alors, curieusement, il semble qu'il avait aussi un côté farceur, ce qui renvoie à ce que vous disiez, humour, du moins si l'on en croit aussi le récit qu'en fait Serge Sobzinski, directeur administratif de la Comédie Française dans Le Monde, en avril 86, quelques jours après la mort de Genet. Il dit « La seule fois où je me suis vraiment amusé, c'est quand j'ai écrit les paravents. » Ça, c'est Genet qui parle. « En 57, juste avant l'arrivée de De Gaulle, je ne pensais pas que ce serait joué. J'ai mis l'impossible sur le papier. Une pièce contre la France. 118 personnages. Et finalement, ça s'est bien passé. Ça a été, dit-il. » Et alors, entre parenthèses, il rit. Il y a un commentaire à faire sur cette déclaration. Ça dit beaucoup de choses de l'état d'esprit de Genet pour cette pièce.
Oui, bien sûr. Il dit une pièce contre la France. Si les paravents est une pièce contre la France, elle est aussi une pièce tout contre la France. C'est-à-dire que la France est son matériau. Il y a peu de pièces dans le répertoire contemporain qui ont la France comme sujet. Alors bien sûr, il la moque, il la conspue, il la chahute, mais dans le même temps, il l'exalte, puisqu'il l'écrit dans la plus belle langue française qui soit.
Vous trouvez que c'est la plus belle langue française qui soit avec l'emploi de tous ces mots scatologiques qui tournent autour? Bon, ça fait partie de la langue française, mais bon.
C'est-à-dire que Genet fait une chose qui est assez particulière, il fait travailler toutes les langues françaises. Il fait travailler la grande langue de Chateaubriand, de Maurice Sèvres, de la Renaissance, qu'il a vraiment marqué et qu'il a absorbé dans sa jeunesse. Mais il fait aussi travailler l'argot de la rue parisienne, il fait travailler l'argot de la langue des prisons. Et du coup, au fond, il a une langue qui est constituée et qui noue toutes ces langues françaises entre elles et qui est unique.
Joli syncrétisme. Alors, dites-moi, cette pièce a fait du barouf, mais 3 ans plus tôt, en décembre 63, une autre a fait aussi scandale. C'est laquelle?
Oui, c'est Le Vicaire. C'est une pièce allemande, créée à Berlin par Piscator, puis à Paris en 1963 par Peter Brook, et qui dénonçait au fond la tiédeur et l'immobilisme du pape Pie XII face à la Shoah. La pièce a soulevé à Paris une énorme controverse. On avait même accusé le KGB d'être à l'origine de la pièce. Il y a eu des manifestations de partisans
des chrétiens,
catholiques, des partisans du pape qui ont assiégé le théâtre de l'Athénée.
Oui, catholiques, pas chrétiens, catholiques, pas catholiques.
Pas cathodiques, mais... Et les affrontements physiques étaient quotidiens. Michel Piccoli, qui jouait un des rôles principaux, faisait le coup de poing. Et l'Église s'est émue, mais pas le pape Jean XXIII. Mais malgré le barouf, comme vous dites, De Gaulle avait décidé que la pièce devait se poursuivre. Donc la politique avait encore à cette époque une certaine grandeur.
Alors justement, les paravents sont-ils pour vous une pièce politique?
Ça serait difficile de dire que les paravents n'est pas une pièce politique. Mais elle ne l'est pas au sens où il s'agirait d'une pièce qui défend une thèse, une opinion ou une cause. Genet sait déjà que la position de la France coloniale en Algérie est indéfendable. Mais il n'écrit pas la pièce avec l'intention d'apporter un soutien au FLN, par exemple. Je reprendrai plutôt pour définir la pièce une expression que Genet a lui-même proposée. C'est une méditation, une longue méditation sur la guerre d'Algérie. ce qu'il tente de penser va bien au-delà du conflit qu'il décrit.
Oui, surtout qu'il va bien au-delà des biens et des méchants.
Oui, tout à fait.
Il n'y a rien de manichéen, justement. C'est peut-être aussi ça qui nous interpelle, hein, quand on est spectateur d'une pièce comme ça. On se dit le monde est plus compliqué que la représentation mentale manichéenne qu'on en a.
Je n'ai dit qu'il a mis de lui... qu'il a mis une part de lui dans tous les personnages, ouais. Y compris dans les personnages les plus caricaturaux, si vous voulez, comme les figures de l'armée. Mais on oublie aussi que Genet a fait partie de l'armée française, qu'il a été un soldat de la coloniale, qu'il a accompagné les troupes du Levant au Proche-Orient quand il était jeune. Et donc, d'une certaine façon, personne ne connaît mieux l'armée que lui, il y a passé 6 ans. Donc, dans la façon dont il rend compte de l'armée française, il y a aussi
il y a témoignage. Aussi lui.
Et puis il dit aussi qu'il a écrit cette pièce pas simplement contre la France, mais contre lui-même, parce que lui-même c'est aussi la France.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Albert Digy, je ne veux pas mettre tout dans des cases, mais la pièce Les Paravents, pour vous, c'est une tragédie, une comédie ?
C'est une tragédie traversée par un rire. Allez voir Les Paravents, monté l'année dernière donc par Arthur Nosiciel, que vous avez évoqué, qui est une pièce qui vient d'être montrée ces jours-ci à Pékin. C'est une pièce où on rit beaucoup. Font la tragédie et le rire ne s'opposent pas. Pensez par exemple à cette superbe tirade de la mère au 3e tableau des Paravents, où elle dit « Je suis le rire, salut, mais pas n'importe lequel, celui qui apparaît quand tout va mal. » C'est de la haute tragédie.
C'est le rire qui met le drame à distance, pour vous, c'est ça ?
Oui, c'est le rire, ou plutôt la tragédie qui porte le rire comme la pointe qui culmine dans ce qu'il y a de tragique.
Alors, dans la pièce, Genet prévoit que le fameux épisode d'épée se déroule en coulisses. Et alors, c'est Roger Blin, le metteur en scène, qui décide de montrer tout ça en pleine lumière. Est-ce qu'il a eu raison, à votre avis ?
Ah, je ne sais pas. C'est sûr que cette séquence a déchaîné les manifestants. Mais c'est peut-être parce qu'il manquait de culture. Il ne savait pas que Genet reprenait ici une vieille tradition des spectacles du Moyen-Âge. Et cette séquence, au fond, où des soldats français, vous l'avez évoqué, font grâce à leur paix, font respirer une dernière fois un lieutenant mourant un air de France et un air de Gascogne et de Lot et Garonne, au fond, elle est très tendre.
Oui, on peut le voir comme ça, évidemment. Ça n'a pas été le cas. Hein.
Ça n'a pas été le cas.
Pas pour tout le monde. Et puis, il y a cette volonté de Genet que le plateau ne ressemble pas à la vie. Il exige que les acteurs ne jouent pas comme au théâtre. Autrement dit, il veut qu'ils adoptent d'autres voies, d'autres démarches. Alors, exemple, hein, dans une scène, il demande que les légionnaires marchent à reculons et qu'on n'entende pas le bruit de leurs souliers à clous sur la scène. Pourquoi le théâtre ne doit-il pas être la vie ? C'est étrange.
Alors, pour que le théâtre soit la vie, il ne faut pas, pour Genet en tout cas, qu'il imite la vie. Il faut qu'il la recrée, qu'il la réinvente. Et c'est en cela que Genet est vraiment un homme de théâtre, parce qu'il prend le théâtre très au sérieux, parce que pour lui, l'espace de la scène est un espace sacré. Et au fond, il a une très haute idée du théâtre.
Et pourtant, dans une lettre à l'éditeur Jean-Jacques Pauvert, il évoque, alors je le cite évidemment, « la bêtise hautaine des comédiens et des gens de théâtre ». Alors, en plus, il est aux répétitions. Il suit l'affaire de près. C'est un paradoxe ou une volonté de tout contrôler ?
Non, je crois que Genet, au fond, déteste le côté boulevardier du théâtre, le côté familier du spectacle ordinaire, comme Artaud d'ailleurs. Il ne supporte pas, par exemple, les acteurs qui regardent la télé en coulisses pendant qu'ils attendent d'entrer en scène. Mais il aime les vrais comédiens et qui sont pour lui, au fond, l'égal des prêtres. Et c'est pour ça qu'il dresse un superbe hommage, par exemple, à Maria Cazares.
Oui. Et ça n'a pas posé de problème, le fait que l'auteur soit là pendant les répétitions, vous savez qu'Affaires Sensibles est une pièce de théâtre hein, pendant 4 ans, donc on sait de quoi on parle. Et quand l'auteur, en l'occurrence, il y avait des auteurs, mais qui ne sont pas venus mettre leur nez là-dedans, on n'aurait pas aimé. Il y a eu des conflits, là. C'est compliqué, même pour le metteur en scène. Enfin, quand le metteur en scène a une idée et que l'auteur dit « Non, mais je n'ai pas écrit la pièce comme ça », ça pose des problèmes. Hein.
Jeunet, sur place, il a assisté à quelques répétitions, mais pas beaucoup. Et il a transmis ses remarques à Roger Blind, au metteur en scène. Et un petit livre a été fait à partir de ses remarques, qui s'appelle « Les lettres à Roger Blind ». Et donc, en fait, il l'écrivait quand il avait quelque chose à dire, il l'écrivait aux comédiens. Et la plupart des comédiens qui étaient là ont tous reçu des petites lettres de Jeunet, qui étaient souvent très laudatives, mais qui leur faisaient des remarques pour les aider à jouer.
D'accord, bon, c'est une façon de travailler. Encore faut-il que le metteur en scène soit assez modeste pour l'accepter. Hein. Il n'y a pas trop d'ego.
Non.
Et dans le théâtre, comme dans tous les pays, les métiers d'exposition, c'est que l'ego gouverne, de tout à l'ego. J'ai lu quelque part que Jeunet et Roger Blind jubilaient face aux réactions de l'extrême droite. Vous y croyez? Vous pensez que c'est vrai?
Oui, absolument. mais peut-être que Roger Blind et Jeunet jubilaient différemment. Blind était à l'époque plus politisé que Jeunet. Pour lui, au fond, les manifestations prouvaient qu'il avait touché juste, qu'il avait visé juste. Jeunet, lui, s'amusait, je crois, de voir que la police, d'abord, était obligée de le protéger, alors que longtemps, elle s'était occupée de lui différemment. Mais je pense que Jeunet, malgré tout, était plutôt étonné des réactions suscitées par sa pièce. Enfin, il n'avait pas le sentiment d'avoir voulu provoquer.
Oui, il n'avait pas fait ça pour ça.
Il avait écrit une pièce plus grave que provocatrice, une pièce qui moque bien sûr l'armée française, mais qui prend ses distances avec la révolte politique des Algériens aussi, tout en lui accordant bien sûr sa reconnaissance. Mais je crois que Jeunet, lui, était plutôt... dans un rapport de gravité par rapport à sa pièce. Il ne pensait pas que ça allait soulever une telle tempête.
Alors Jean-Louis Barrault, lui, a été très lucide dès le début, puisqu'il s'est montré finalement le plus prudent de tous. Et on l'a entendu, attention, ça peut vous choquer.
Oui. Barrault est peut-être le seul qui n'avait pas voulu le scandale. C'était lui d'abord le directeur du Théâtre de France. Et d'une certaine façon, au fond, les paravents peuvent être vus comme une répétition générale de mai 68 qui allait se produire juste 2 ans plus tard et qui a coûté son poste à Barrault, puisqu'il a été démis de ses fonctions par Malraux juste après. Et je pense qu'il a payé aussi le prix d'avoir monté les paravents.
Alors, comparaison n'est pas raison, ce sont deux époques différentes, mais peut-être que c'est à rapprocher des heurts qui ont éclaté jeudi dernier à Paris lors de la représentation du philharmonique israélien. Au-delà de cet exemple précis, est-ce que ça vous choque, vous, qu'une scène de théâtre soit une scène de bagarre, une scène de conflit politique, non pas en représentation sur la scène, hein, mais dans la réalité?
Oui, malgré tout, je pense que l'art devrait... être un espace préservé.
Oui, un sanctuaire.
Le conflit peut se placer à l'intérieur de la pièce, à l'intérieur, mais que n'importe quoi, que ce soit un concert ou une pièce, puisse être interrompu et arrêté par des gens de l'extérieur, oui, je pense que l'art doit rester quand même un espace de liberté.
Ça sera le mot de la fin, Albert Dichy. Merci infiniment. Au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le scandale des paravents au théâtre de l'Odéon en 66, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.